Nous lisons maintenant du livre de Jérémie, chapitre 23, et les versets 5 et 6. Jérémie 23, 5 et 6. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Judée sera sauvée. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel, notre justice. Amen. Et Dieu lui-même bénira cette lecture de sa sainte parole. L'Éternel, notre justice. Jéhovah Tzidkenu. L'Éternel, notre justice. C'est un texte dont la vérité est essentielle pour le salut. Pourquoi? Eh bien, Adam et Ève, nos premiers parents, dans la chute, ont perdu deux choses: leur innocence et leur capacité de faire la volonté de Dieu. La double obligation nécessaire à n'importe quel plan de salut serait donc de couvrir notre culpabilité devant Dieu et de nous rendre capables d'obéir parfaitement à Dieu. Personne n'ira au ciel qui porte encore sa culpabilité, et personne n'ira au ciel qui n'obéit pas parfaitement à la loi de Dieu. Car le salut a un rapport très important avec la loi. C'est que l'on doit obéir parfaitement à la loi de Dieu pour obtenir le salut. Mais le problème est que personne n'en est capable, à cause de sa nature humaine, une nature souillée par la chute de nos premiers parents. Or, la Bible enseigne que le salut est tout à fait l'œuvre de l'Éternel. C'est 100% de lui. Il est important de noter que la Bible n'enseigne pas que l'Éternel possède la solution, ni même qu'il pourvoit la solution. Non, la Bible nous enseigne que l'Éternel est la solution. Notez bien les mots de notre texte. L'Éternel, notre justice. Le sens du salut est que Dieu nous offre sa justice à lui, afin que l'on peut déclarer que le pauvre pécheur est totalement juste devant un Dieu juste, un Dieu qui déteste le péché. C'est pour ça que je peux dire que tout autre système de salut est faux, soit la régénération par le baptême, soit le salut par les bonnes œuvres, soit le salut par les rites de l'Église, soit n'importe quel autre système. Ils sont tous nuls. Le seul salut qui puisse assurer l'entrée au ciel est celui qui déclare un homme absolument juste devant un Dieu qui est lui-même absolument juste. L'Éternel, notre justice. Examinons de près maintenant ce texte. Il enseigne trois grandes vérités à propos de notre salut. Tout d'abord, prenons le premier mot, l'Éternel, c'est-à-dire Jéhovah. Ce mot souligne le fait que Jésus-Christ est Dieu, car le titre « L'Éternel, notre justice » est, selon le verset 5 qui précède le texte, appliqué au germe juste de David. Et nous savons que ce germe juste de David est Jésus-Christ. L'Éternel, notre justice, est donc Jésus-Christ. Or, il y a beaucoup d'autres passages dans la Bible qui enseignent cette vérité. Laissez-moi dire ici que chaque croyant doit être prêt à tout moment à citer dans la Bible les versets qui montrent que Jésus-Christ est Dieu. Car cette vérité est une grande vérité fondamentale du christianisme. Regardons seulement un autre texte pour maintenant. Jean chapitre 1 et le verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Et puis le verset 14 de ce même chapitre. « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » La parole de Dieu a été faite chair. C'est Jésus lui-même, notre Seigneur et notre Dieu. Et c'est ce Dieu seul qui peut donner la paix aux pécheurs. C'est seulement Jésus-Christ qui peut se charger de la pollution et de la culpabilité du péché. Il n'y a aucun autre capable de faire cela. Si ce n'est pas lui, qui est-ce qui puisse arracher le pauvre pécheur de la boue de ses péchés pour le placer sur le rocher des siècles, tout en le rendant une nouvelle créature? Qui peut le faire, si ce n'est pas Dieu? Et celui qui est notre justice est lui-même juste. Dans 1 Jean, chapitre 2, le verset 1, il est appelé Jésus-Christ le juste. Il est absolument juste, sans péché. Dans ses actes, dans ses pensées, dans ses désirs, dans ses motifs, il est pur, sans péché. Il y a des gens de nos jours qui disent que Jésus-Christ, en tant qu'homme, était capable de pécher, mais qu'il a choisi de ne pas pécher. Ils disent que Jésus pouvait choisir de ne pas pécher. Tout cela est bien joli, mais ce n'est pas vrai. Mes amis, la Bible nous déclare que non seulement Jésus pouvait-il choisir de ne pas pécher, mais en plus, il ne pouvait pas pécher. Et pourquoi? Parce qu'il était Dieu lui-même, Dieu incarné, Dieu pur, Dieu juste, et Dieu tout à fait incapable de pécher. Oui, Jésus-Christ peut être notre justice, parce qu'il est lui-même juste. Regardons de nouveau notre texte, l'Éternel, notre justice. Notons maintenant une deuxième vérité soulignée par ce texte. Si l'on regarde le deuxième mot du texte, on verra la miséricorde du Sauveur envers nous, car il est l'Éternel, notre justice. C'est le mot « notre » qui part de la miséricorde du Sauveur. Cela nous amène au cœur même de l'Évangile. Ce qu'on appelle la doctrine de l'imputation. C'est le cœur de l'Évangile parce que sans cette doctrine, il n'y a pas d'Évangile. Et pourtant, il y a beaucoup de prêcheurs de l'Évangile de nos jours qui ne parlent jamais de cette doctrine. Il y a beaucoup de fidèles dans les églises actuelles qui n'ont jamais entendu parler de la doctrine de l'imputation. C'est M. Martin Luther qui a dit « Voici le trait qui distingue entre une église qui demeure fidèle et une église qui tombe. Une église demeure fidèle aussi longtemps qu'elle proclame la justice imputée de Jésus-Christ. » Dans Romains, chapitre 4, et les versets 1 et 2, nous lisons « Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. La justice d'Abraham n'est pas le résultat de ce qu'Abraham a fait lui-même. C'est pour ça qu'Abraham ne pouvait pas se glorifier devant Dieu. » Maintenant, regardez les versets 5 et 6 de ce même chapitre, le chapitre 4 de Romains. « À celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi, lui, est imputée à justice, De la même façon, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Mes amis, le cœur du salut, c'est l'idée de la justice d'un autre imputée à moi. Cela est très important à comprendre. La justice de Christ est imputée à moi. C'est la justice qu'il a manifestée pendant sa vie sur la terre. On dit souvent « Christ est mort pour moi ». Et cela est bien vrai, certes. Mais il ne faut pas négliger le fait que Jésus-Christ a aussi vécu pour moi. Pourquoi Jésus-Christ n'est-il pas allé directement à la croix dès le moment de son arrivée sur la terre? Parce que, durant sa vie, il a vécu pour moi. Il a gardé la loi de Dieu pour moi. Dans sa vie, il a obéi parfaitement à la volonté de Dieu. Ce que j'aurais dû faire, mais ce que je ne pouvais point faire, et ce que je ne voulais point faire, mais sans quoi j'étais déjà condamné, Jésus l'a fait pour moi. Il a vécu pour moi. Il a gardé la loi pour moi. Puis il est mort pour moi. Et ainsi, il a rempli l'autre obligation que j'avais devant la loi, c'est-à-dire que le péché doit être puni par la mort. Ainsi, par sa vie et par sa mort, Jésus est ma justice. Et ressuscité, il est ressuscité pour moi. Je suis en Christ, et toute la justice de Jésus-Christ est imputée, c'est-à-dire mise sur la compte de tous ceux qui croient en lui. Ah, mon ami, dans ce miséricorde de Jésus-Christ, j'ai le droit d'entrer au ciel. Personne ne peut y entrer sans résoudre le problème de sa culpabilité. Jésus-Christ a éliminé ma culpabilité par sa justice imputée à moi. On doit avoir une justice absolument parfaite pour entrer au ciel, car Dieu, au contraire du concept populaire de lui, Dieu n'abaisse jamais ses standards. Mais si l'on a la justice de Jésus-Christ, on a cette justice parfaite que Dieu exige. Devant Dieu, je peux dire « Voici ma justice ». C'est celle de Jésus lui-même. Quelle pensée merveilleuse ! Dieu a regardé Jésus-Christ comme s'il était lui-même pécheur. Et Dieu regarde le pauvre pécheur croyant maintenant comme s'il est Jésus-Christ. Pensez-y. Il nous considère comme si nous avons vraiment mérité tout ce que Christ a mérité. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Oh, que c'est merveilleux cette pensée, l'Éternel notre justice. Considérant finalement la troisième vérité enseignée par notre texte, en regardant le troisième mot, justice, l'Éternel notre justice. Dans le livre de Romains, le chapitre 5 et le verset 12, nous lisons « C'est pourquoi, comme par un seul homme, c'est-à-dire Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Puis le verset 18. « Ainsi donc, par une seule offense, celle d'Adam, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. » Mon ami, la justice de Jésus-Christ est tout à fait suffisante pour couvrir tous les péchés de tout homme qui croit. De ceux d'Adam jusqu'au dernier pécheur qui sera sauvé. Non seulement cette justice est-elle suffisante, mais elle résiste à toute accusation. Romains 8, 33. qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Ah, si Satan vient nous accuser de nos péchés, ou si notre propre conscience est prise de remords à cause de notre passé noir, Dieu lui-même déclare que nous sommes justifiés. Rien ne peut accuser celui qui a Jésus-Christ comme sa justice. Et cette justice est éternelle. Ça dure à jamais. Ça dure aussi longtemps que Christ vit. La justice de Jésus-Christ est éternelle parce que Jésus-Christ est éternel. Notre justice est éternelle. Souvenez-vous de notre texte, l'Éternel, notre justice. Et cette justice sanctifie le croyant. Si quelqu'un ne mène pas une vie qui, de jour en jour, devient de plus en plus sanctifiée, on peut bien se demander si cette personne est vraiment sauvée, justifiée par le sang de Jésus. Ne dites pas que vous êtes en Christ si vous n'êtes pas sanctifié. Notez bien que je n'ai pas dit parfait. La perfection absolue ne vient pas qu'au ciel, en la présence de notre Seigneur. Mais ici-bas, la preuve de notre salut est notre conformité à Jésus-Christ. Si votre vie ne se conforme pas de plus en plus à la vie et à la personne de Jésus-Christ, vous n'êtes pas justifié, vous n'êtes pas sauvé, ce n'est pas possible. Mon ami, laissez-moi vous poser une question. Jésus-Christ est-il votre justice? Sans cette justice, sans cette justice que Dieu nous offre, sans être couvert par ce manteau, il n'y a pas de place pour vous au ciel. Ô pécheur, avez-vous la justice de Jésus-Christ? Cette justice est un cadeau gratuit que Dieu vous offre en Jésus-Christ. Mais il faut que vous l'acceptiez. Vous devez vous repentir de vos péchés et accepter la justice parfaite de Jésus-Christ. Il vous donnera sa justice et l'assurance de la vie éternelle avec lui au ciel. Que Dieu vous donne cette assurance. C'est ça ma prière pour vous aujourd'hui. Et pour le croyant, ma prière est que le monde puisse voir Christ en vous et ainsi apprenne à connaître aussi l'Éternel, notre justice. Amen. Prions. Notre Père céleste, nous te remercions de Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu. Nous te remercions de ta parole, la Bible, la divine parole, qui nous enseigne que Dieu nous a créés, et en nous créant, il nous a donné la vie. Mais nous apprenons aussi que nous sommes rebelles contre Dieu, contre ce Dieu saint qui nous a donné la vie. Et nous avons maintenant la mort à la place de la vie. Mais nous te remercions également que Dieu nous a aimés, et c'est pour ça qu'il a envoyé son Fils, pour nous sauver et pour nous donner la vie éternelle. Nous te remercions qu'en Jésus-Christ nous avons la vie éternelle, nous avons sa justice. Ô Seigneur, le désir de notre cœur aujourd'hui, c'est que s'il y a quelqu'un qui écoute notre voix, qui écoute ta parole, mais qui n'a jamais ouvert son cœur à Dieu, qui n'a jamais accepté Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Le désir de notre cœur, ô Seigneur, est qu'il accepte aujourd'hui. Seigneur, nous te prions que tu envoies ton Saint-Esprit qui travaille dans le cœur de cet individu afin qu'il puisse ouvrir son cœur, qu'il puisse avoir la paix que Jésus donne, qu'il puisse avoir le pardon et la place au ciel, réservé pour ceux qui sont couverts par la justice de Jésus. Car c'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen.